Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour et c'est reparti pour le monde aujourd'hui. Une demi-heure d'infos sur la VOA. Jacques Aristide avec vous en compagnie de Anne Albertson en ce mercredi 13 novembre 2014. Bonjour Anne.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Les titres ce matin, la capitale centrafricaine menacée par de nouveaux combats à l'heure où le pays s'est enfin fixé sur les élections. Dans l'actualité encore, au Burkina Faso, accord à minima entre militaires et civils en vue de la transition à l'international. L'ONU redoute le retour à une guerre totale dans l'est de l'Ukraine. Et dans la partie magazine, coup de projecteur tout à l'heure sur le programme de bons alimentaires pour les pauvres aux États-Unis. À venir également nos rubriques habituelles, le billet sportif et la plage musicale.
We're just eating fresh vegetables we never would have.
Nous consommons, dit-elle, des légumes frais que nous n'aurions jamais découverts et tout cela est possible à cause de la flexibilité du programme SNAP depuis l'an dernier.
Et voilà donc, c'est à venir tout à l'heure. En République centrafricaine, Bangui, sous la menace d'une nouvelle flambée de violence, les ex-combattants Séléka, basés dans la capitale, menacent de s'attaquer à toutes les institutions proches du camp Béal si le gouvernement persiste dans son projet visant à les faire partir de Bangui par la force. Le point avec Félix Ayepassis Zembrou.
La colère de ces hommes armés fait suite à un message du ministère centrafricain de la Défense leur demandant de libérer les sites de cantonnement de Bangui d'ici fin novembre. Un message qui a suscité l'indignation des ex-rebelles menaçant de s'attaquer d'ici jeudi à toutes les institutions non loin du camp Béal, l'un des principaux sites de cantonnement, et de mettre le feu à sa poudrière. Lieutenant Dieu béni Guétémalé, l'un des mécontents, assure qu'ils sont prêts à mourir en martyr.
C'était le gouvernement et l'opinion internationale qui nous a demandé d'être au cantonnement depuis le 5 décembre. Et jusque-là, personne n'est venu vers nous. Présentement, ils sont tentés de préparer seulement notre délocalisation pour nous amener dans l'arrière-pays. Alors que nous sommes les fils de ce pays. Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est comme s'il ne veut pas la paix dans ce pays. Comme le gouvernement n'a pas les moyens de donner les frais de cantonnement, nous voulons à ce que nous devenions des martyrs dans ce pays. Nous allons jeter le feu dans le que le gouvernement se rappelle de ce qui s'est passé à Brazzaville.
Cette nouvelle a provoqué déjà la fuite de certains voisins du camp Béal et d'une partie du personnel soignant de l'hôpital communautaire de Bangui. Le gouvernement, de son côté, n'a pas encore réagi à cette menace. Le 7 novembre dernier, des spécialistes en explosifs et en déminage de la force française Sangaris ont évalué à plus de 4 tonnes de matière active stockées dans de très mauvaises conditions dans ce camp, ce qui représente un risque d'explosion dans un rayon de 330 mètres.
La RCA, où les élections sont prévues en juin et juillet l'an prochain, nous en parlerons davantage tout à l'heure dans la tranche magazine de cette émission.
Au Burkina Faso, il est maintenant question d'avant-projet de charte de transition, un premier accord à minima consenti par l'armée lors des négociations d'hier avec les partis politiques et la société civile. L'actuel homme fort du pays, le lieutenant-colonel Isaac Zida, a notamment accepté que le président de l'Assemblée intérimaire, le Conseil national de transition, soit une personnalité civile élue par ses pairs. De Ouagadougou, Zoumana Wanogo.
À sa sortie d'audience le mercredi avec le lieutenant-colonel Yacouba Zida, l'envoyé spécial de la francophonie, l'ex-président capverdien Antonio Monteiro, a confié ceci.
On a reçu des informations très concrètes et surtout la volonté de l'armée de remettre le pouvoir aux civils le plus tôt possible. Et le colonel Zida nous a dit même que pour lui, on pouvait faire des élections dans 6 mois. Et en tant que représentant de l'organisation de la francophonie, nous réjouissons de cette volonté, de cette détermination.
Mais sur le terrain, les choses semblent ne pas prendre ce chemin plein d'optimisme. À cause des amendements faits sur des amendements, les propositions sur des contre-propositions.
Notre correspondant Zoumana Wanogo nous proposera d'autres réactions un peu plus tard.
Concernant la Côte d'Ivoire, l'ex-président Laurent Gbagbo, actuellement détenu à La Haye, sera candidat à la présidence du Front populaire ivoirien, le parti qu'il a créé. Jean-Roger Bion.
Pascal Affi-Nguessa a annoncé hier sa candidature pour la présidence du Front populaire ivoirien. Ancien premier ministre de 2000 à 2003, il dirige le parti depuis 2001. L'ancien président Laurent Gbagbo, détenu à La Haye, avait déposé sa candidature, lui, la semaine dernière par l'intermédiaire de cadres du FPI, dont son fils Michel Gbagbo. Les mandats de président du FPI sont de 3 ans renouvelables, mais aucun congrès du parti n'a pu se tenir depuis 13 ans à cause de la crise qui a ébranlé le pays de 2000 à 2011. Deux camps s'affrontent selon Alphonse Douati, cadre du FPI. Un groupe veut remettre les rênes du parti à son fondateur Laurent Gbagbo lors du congrès prévu en principe à la mi-décembre. Un autre groupe veut participer aux jeux politiques avec des élections prévues l'année prochaine. Pour l'instant, seul le président Alassane Ouattara est candidat déclaré à la présidentielle de 2015, mais la participation du FPI contribuerait à la réussite du scrutin.
Les États-Unis appellent le Fonds monétaire international à effacer près d'un cinquième de la dette des 3 pays ouest africains les plus touchés par l'épidémie d'Ebola. Eddie Sangou.
Selon un communiqué de Jacques Luce, secrétaire au Trésor, Washington demande au FMI d'accorder un allègement des dettes à la Guinée, au Libéria et à la Sierra Leone. Les États-Unis, premier actionnaire de cette institution, souhaitaient un allègement global des 100 millions de dollars, précisant que les montants devraient être déterminés après consultation avec les fonds et les 198 États membres. Au total, les 3 pays doivent rembourser plus de 493 millions de dollars au FMI, dont 174,8 millions pour la seule Guinée. Les FMI a déjà accordé fin septembre une rallonge des 130 millions de dollars à ces 3 pays. Selon les estimations du FMI, l'épidémie d'Ebola qui a déjà tué plus de 5000 personnes pourrait faire réviser à la baisse les prévisions des croissances économiques en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. De son côté, la Banque mondiale estime qu'une propagation de l'épidémie pourrait coûter plus de 32 milliards de dollars à l'Afrique de l'Ouest d'ici à la fin 2015.
En Égypte, 8 militaires étaient portés disparus hier après qu'un navire de la marine a été la cible d'une attaque terroriste en Méditerranée. Selon l'armée, les assaillants présumés ont utilisé des bateaux de pêche. 32 d'entre eux ont été arrêtés et 4 tués.
Toujours en Égypte, le président Abdel Fattah al-Sissi s'est arrogé de nouveaux pouvoirs hier, ce ayant trait à la déportation de présumés criminels étrangers. Cette décision pourrait notamment être en faveur des 3 journalistes d'Al Jazeera emprisonnés pour soutien aux frères musulmans. Le président Sissi avait souhaité qu'il soit expulsé du pays.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire général adjoint aux affaires politiques des Nations Unies, Jens Andres Stoltenberg-Franzen, a dit redouter hier le retour à une guerre totale en Ukraine lors d'une réunion d'urgence de l'ONU. Après 2 mois de trêve fragile, l'Ukraine a dit se préparer au combat en réaction à l'arrivée, d'après Kiev, de troupes russes dans l'Est séparatiste pro-russe. Pour sa part, le ministère russe de la Défense a rejeté comme sans fondement les accusations du commandant en chef des forces alliées de l'OTAN en Europe, Philip Breedlove, sur l'arrivée dans l'est de l'Ukraine de convois militaires russes. L'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, a également confirmé cette incursion militaire russe.
Les autorités israéliennes ont donné leur feu vert hier à la construction de 200 nouveaux logements dans le quartier résidentiel de Ramo à Jérusalem-Est, malgré des tensions grandissantes avec les Palestiniens. La porte-parole du département d'État américain, Jen Psaki, a déclaré que les États-Unis sont profondément préoccupés, ajoutant que cette décision pourrait aggraver une situation déjà très difficile.
3 marins de la flotte américaine ont été agressés hier à Istanbul, en Turquie, par des membres d'un groupuscule ultranationaliste turc. Les assaillants ont tenté de recouvrir la tête des militaires d'un sac, d'après une vidéo diffusée sur Internet. L'ambassade des États-Unis à Ankara a déploré un acte épouvantable.
Sommet annuel de l'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est au Myanmar. À cette occasion, le président Barack Obama devait rencontrer le président Thein Sein et l'opposante Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, Bagasikoura.
Les 10 pays de l'ASEAN sont rejoints cette année par 8 autres nations, dont les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Inde. Dans une interview avec un magazine local, le président Barack Obama a déclaré que c'est autant fait de progrès sur certaines réformes politiques et économiques, mais marche arrière dans d'autres domaines. Il a évoqué les restrictions imposées aux anciens prisonniers politiques et les arrestations de journalistes. Environ 48 ans après sa création, l'ASEAN, qui rassemble quelques 600 millions d'habitants, cherche toujours à définir ses objectifs et à s'accorder sur des politiques harmonieuses. Le président Thein Sein a averti qu'un an avant le lancement de la communauté économique de l'ASEAN, qui est censée créer un marché unique dans la région, des défis persistent pour mettre en œuvre les 20% restants des objectifs et répondre aux questions qui feront surface après 2015. Le président du Myanmar a également déclaré que l'ASEAN doit jouer un plus grand rôle sur la scène internationale en adoptant une position plus unie pour traiter des questions d'intérêt commun.
Enfin, le Brésilien Pelé a été admis hier à l'hôpital pour des maux d'estomac. La légende du football, âgée de 74 ans, a ainsi raté une cérémonie pour célébrer sa carrière dans un musée de Santos, sa ville natale. L'état de santé du triple vainqueur de la Coupe du Monde n'inspirait néanmoins aucune inquiétude, selon un de ses collaborateurs.
Voilà donc pour le journal. Merci Anne. Vous êtes toujours branché sur la VOA émettant de Washington. Le monde aujourd'hui se poursuit avec Jacques Aristide au micro. Cap sur la Mauritanie, où la police a fermé le siège de l'ONG anti-esclavagiste IRA, l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste. Plusieurs dirigeants de l'IRA, dont son président Biramould Daoud Abed, ont été arrêtés à Rosso, dans le sud du pays. Idriss Fall a joint à Nouakchott Bala Touré, chargé des relations extérieures du mouvement.
Le bureau de notre mouvement a été fermé depuis l'organisation dans ce siège d'une conférence de presse et l'organisation aussi d'une marche dans les rues de Nouakchott, protestant contre l'arrestation de nos camarades. Et les manifestants qui ont été accueillis par les policiers qui étaient armés de matraques et de grenades lacrymogènes. Donc, à la hauteur du marché de la capitale, ils ont chargé les militants pour les disperser.
Et qu'en est-il de l'arrestation de ces leaders de votre mouvement?
Tout cela est arrivé parce que depuis le vendredi 7 novembre, nous avions commencé à partir de Bogué une caravane pour la lutte contre l'esclavage foncier, contre toute forme d'expropriation des terres de fertile de la vallée. Parce que les populations n'ont plus d'espace vital. Il y a un village du nom de Donaï, au bord du fleuve. Ce village n'a plus de place pour les cimetières. Donc on traverse le fleuve pour enterrer les morts au Sénégal. Parce que tout est pris par des hommes d'affaires de l'agro-business arabo-berbère.
C'est pour cette raison qu'on a arrêté Biramould Abed.
Oui, arrivé à Tchemben, avant-dernier arrêt, nous avons eu la surprise de recevoir une lettre qui venait du Wali, c'est-à-dire le gouverneur de Tarza, qui nous interdisait toute poursuite de la caravane. Tout manquement à cet ordre serait réprimé selon la rigueur de la loi, comme il le disait. Et nous avons reçu d'ailleurs même sur le chemin la visite du Hakem, c'est-à-dire du préfet, qui nous transmettait verbalement ce qui était écrit dans la lettre. Alors le lendemain vendredi matin, on était à l'entrée de Rosso, quand nous avons été stoppés par un cortège, au moins 400 gendarmes. Ils nous ont chargés, ils nous ont empêchés de continuer. Et c'est en ce moment que Biram, il a commencé à discuter avec le chef des gendarmes, qui d'ailleurs lui a proposé de venir plutôt aller voir le gouverneur. Ce qu'il a fait avec Brahim Bilal et Djibisso, qui est le président du mouvement Kautal Ngambé Litare. Donc ils sont partis tous les trois ensemble. Donc ils les ont arrêtés et les ont incarcérés au niveau de la compagnie de la gendarmerie de Rosso. Ils sont en détention, personne n'a accès à eux. D'ailleurs, même la ville de Rosso est en état de siège. Toutes les ruelles qui permettent d'accéder à leur lieu de détention, c'est-à-dire son commissariat, c'est la brigade de gendarmerie de Rosso, c'est la compagnie de la gendarmerie, sont bouclées.
Bala Touré, chargé des relations extérieures de l'ONG anti-esclavagiste IRA en Mauritanie. Les élections générales en Centrafrique auront lieu en juin et juillet 2015. C'est ce qui a été décidé à l'issue de la 6e réunion du groupe international de contact sur la RCA à Bangui. Pour des précisions, Félix Ayepassi Zembrou a joint le président de l'autorité nationale des élections, Dieudonné Kombo-Yaya.
Dans le chronogramme remanié que nous avons préparé, nous avions prévu de tenir le référendum constitutionnel au mois de mai et le premier tour des élections présidentielles et législatives jumelées en juillet et le second tour en août. Au niveau du groupe international de contact, ils ont estimé qu'il fallait tenir le premier tour en juin et le second tour en juillet pour être en conformité avec la prolongation de 6 mois prévue dans l'article 102 de la charte des prochaines transitions, c'est-à-dire mi-août 2015.
Certains évoquent certains problèmes liés à l'organisation de ces élections, entre autres le fichier électoral, le problème de saison de pluie. Bon, vous, personnellement, qu'est-ce que vous en dites?
Écoutez, le fichier déchets naturels, vous savez que tout a été détruit, il faut refaire. Donc il faut commencer d'abord par le recensement électoral, et puis avant d'arriver à la délivrance des cartes électeurs. La pluviométrie, nous ne l'ignorons pas. Mais tous ceux qui ont voulu qu'on organise des élections en juin et juillet savent que c'est la période de la saison de pluie. Et même nous, quand nous avions proposé la tenue des élections en juillet, août, sous la pression, nous savions que c'est la saison de grande pluie. Mais en parlant d'automne, nous sortons du cadre légal de la charte constitutionnelle de transition. Donc, nous nous limitons dans cette grille donnée par la charte constitutionnelle de transition et nous verrons bien si nous pouvons organiser ça sous la pluie. Écoutez, le peuple a trop souffert et je crois qu'il vente qu'il pleuve et il ira dans le bureau de vote pour qu'on sorte de cette cacophonie et aller vers le retour à la légalité constitutionnelle.
Dieudonné Komboyaya, président de l'Autorité nationale des élections en Centrafrique.
Cette semaine, dans Washington Forum, les trois leaders religieux centrafricains sont à l'honneur. L'archevêque Nzapalainga, le révérend Bangou et l'imam Layama sont nos invités exceptionnels cette semaine à Washington dans nos studios pour parler de la crise centrafricaine. Retrouvez-nous à 19h temps universel ce jeudi sur La Voix de l'Amérique.
Comme promis, retour au Burkina Faso où l'armée et les civils poursuivaient hier à Ouagadougou leur dialogue pour trouver un accord sur la transition après la chute du président Blaise Compaoré. Dans le reportage de Zoumana Wonogo, la réaction d'abord de Roch Marc-Christian Kaboré, président du Mouvement du Peuple pour le Progrès.
La demande était la suppression de l'Assemblée nationale de transition. Nous avons demandé peut-être qu'en lieu et place de l'Assemblée nationale de transition, nous transformions ce que nous avions proposé, le Conseil national de transition, à une sorte d'assemblée délibérative, une sorte de parlement qui va aider le chef d'État à adopter les textes. Et nous avons fait des propositions aussi d'amendements sur le nombre de personnes qui vont participer soit à ce conseil, soit également à la structure de désignation. Je dois dire que dans les grands traits, c'était vraiment les questions, les préoccupations les plus essentielles, sauf des amendements que nous avons faits pour tenir compte également du fait que, même si nous sommes dans l'inclusive, disons simplement que l'ancienne majorité doit tirer les leçons de son comportement pour pouvoir réintégrer normalement les choses. Mais on a dit, en termes de participation, nous considérons que nous ne pouvons pas être dans les mêmes dimensions de participation.
Le temps disait rien que le lundi passé, Mohamed Ould Abdelaziz, président de l'Union africaine et président de la Mauritanie, est l'ennemi principal des Burkinabés dans cette gestion de la transition. Hervé Kam, le porte-parole du mouvement Le Ballet Citoyen, partage cette idée.
Déjà, on est tous d'accord sur un président civil. On est tous d'accord pour un gouvernement essentiellement civil. Le point de discorde qui existe sur le CNT ou le Parlement, moi, j'invite vraiment toutes les parties prenantes à jouer bas la terre. Nous devons aller au plus pressé à l'essentiel qui reste l'élection du président et l'élection donc d'une assemblée nationale. On avait des objectifs très ambitieux, c'est-à-dire déjà au cours de la transition, régler tous les problèmes que le Burkina Faso avait. Mais c'est très difficile de le faire, il faut le reconnaître.
Rendez-vous est pris ce jeudi soir pour l'examen en plénière de l'avant-projet de charte devant aboutir à la signature de la feuille de route de la transition. Sera-t-on encore dans le schéma proposition et contre-proposition? Tendons de voir. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Le Liberia, un pays fragilisé par l'épidémie d'Ebola, d'où le plaidoyer hier à New York du chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU en faveur de la prolongation du mandat des casques bleus déployés dans le pays. Le compte-rendu de Timothée de Dongmaï.
Hervé Latsou a informé le Conseil de sécurité de l'ONU que le retrait progressif des troupes de la mission de maintien de la paix au Liberia, la MINUL, a été gelé alors que ce pays s'efforce de faire face à l'épidémie d'Ebola qui a fait plus de 2800 morts. Sous les circonstances actuelles, nous sommes d'avis qu'il serait approprié d'étendre le mandat de la MINUL jusqu'à septembre 2015 tout en continuant l'application des recommandations concernant les questions politiques et en différant le retrait des soldats et policiers jusqu'à ce que les autorités compétentes signalent la fin de la crise de l'Ebola. La mission onusienne est présente au Libéria depuis plus d'une décennie, aidant les autorités dans la reconstruction, le développement des capacités des institutions étatiques et le maintien de l'ordre. Au mois de septembre, le Conseil de sécurité a prolongé son mandat jusqu'à la fin de l'année, mais envisage maintenant de l'étendre jusqu'à septembre 2015. Pour ce faire, une résolution devra être adoptée avant le 31 décembre. L'ambassadrice du Libéria à l'ONU, Marion Camara, s'est félicitée des intentions du Conseil de sécurité. Elle souhaite que le mandat de la MINUL soit prolongé d'un an et a demandé au Conseil de différer toute modification de sa mission.
We humbly suggest that a declaration by WHO that Liberia is Ebola-free.
Nous suggérons humblement que lorsque l'OMS déclarera le Libéria libre de l'Ebola, le Conseil autorise alors une évaluation globale des conditions sur le terrain. Et comme par le passé, les résultats d'une telle évaluation guideraient alors l'action du Conseil. Les membres du Conseil prendront probablement en considération l'impact de l'Ebola sur la situation politique et sécuritaire pour déterminer la durée de prolongation du mandat de la MINUL. L'état d'urgence de 90 jours imposé par le gouvernement libérien en rapport avec l'épidémie a expiré cette semaine et il n'est pas clair s'il sera renouvelé. La crise sanitaire a affecté le processus électoral libérien avec l'annulation des législatives prévues en octobre. Les autorités libériennes se demandent s'il faut les reprogrammer pour le mois prochain au cas où l'épidémie d'Ebola serait sous contrôle.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Gros plan ce matin sur le programme de bons alimentaires aux États-Unis. Il a pour nom SNAP, S-N-A-P, autrement dit le programme d'aide supplémentaire à la nutrition, plus connu comme le Food Stamp. C'est une façon pour le gouvernement fédéral de venir en aide aux Américains vivant dans la pauvreté. Les bons leur permettent de s'approvisionner en vivres dans les supermarchés, mais pas que ça, dans le nord de la Virginie par exemple, des fermiers les acceptent également et les bénéficiaires ont ainsi droit à des légumes frais ou même à des semences pour leur propre jardin, comme nous le relate Michel Joseph.
Quand Maureen Blake a perdu son emploi il y a un an, ses visites au lopin de terre loué dans un jardin communautaire local sont devenues plus fréquentes. Avec l'aide de ses enfants, elle récolte des produits chaque semaine. Elle dit que chaque semaine, quand elle vient prendre sa nourriture, elle reçoit des légumes frais. Il y en a toute une variété, 4 ou 5 concombres, 6 à 8 courgettes, sans compter beaucoup de betteraves et de laitues. Ces produits coûteraient beaucoup dans une épicerie, mais Maureen Blake a décidé de les cultiver dans son propre jardin. Nous consommons, dit-elle, des légumes frais que nous n'aurions jamais découverts et tout cela est possible à cause de la flexibilité du programme SNAP depuis l'an dernier. Les bénéficiaires de coupons SNAP peuvent acheter des plantes ou des graines, nous dit Catherine Willis, porte-parole d'un marché d'agriculteurs à Leesburg, en Virginie. Voici comment s'effectue la transaction. Quand un client arrive ici, il vient avec sa carte SNAP, que l'on utilise de la même façon qu'une carte de crédit. S'il veut en retirer 10 dollars quand nous traitons la carte à travers la machine, on lui enlève 10 dollars de son compte. Puis, nous lui donnons des jetons en bois d'une valeur identique, lesquels peuvent être utilisés chez n'importe quel vendeur dans ce marché. Le but du programme, c'est d'apprendre aux familles comment rester en bonne santé. Explication, Amanda Hoffman, du département de la santé du comté de Loudoun, en Virginie.
Les enfants dans Loudoun County qui sont...
Elle dit que les enfants sans assurance maladie et de parents pauvres deviennent obèses en grandissant. Cela contribue à des maladies chroniques. Donc, il est bon de les aider à acquérir peu à peu de meilleures habitudes alimentaires. Ce programme d'assistance fédérale SNAP fait donc plus que nourrir des familles nécessiteuses. Il leur apprend aussi à faire de bons choix quant à leur régime alimentaire et les leçons apprises en compagnie de leurs parents. Les plus petits ne les oublieront peut-être pas de sitôt.
Nous passons aux nouvelles sportives. J'accueille Bagassi Koura. Bonjour.
Oui, bonjour Jacques.
Ce matin, on ne sait toujours pas où aura lieu la CAN 2015.
Oui, on ne le sait pas encore. Hein. On avait cité hier plusieurs pays, dont l'Angola et même le Qatar. Mais ces deux pays ont démenti. Le temps presse pour trouver un nouveau pays organisateur pour la Coupe d'Afrique des Nations. Après les sanctions mardi contre le Maroc, la CAF maintient que le tournoi se tiendra bel et bien aux dates prévues, c'est-à-dire du 17 janvier au 8 février prochain. Le choix du nouveau pays hôte devrait être annoncé dans 2 ou 3 jours. C'est ce qu'a affirmé sur France 24 le président de la CAF, le Camerounais Issa Hayatou.
Au Kenya, le champion sortant conserve son titre.
Oui, Gor Mahia a bouclé le championnat avec 3 points d'avance sur Sofapaka. Gor Mahia représentera donc le Kenya dans la Ligue des Champions 2015. Ce club est le seul de son pays à avoir disputé une finale de Coupe d'Afrique, la Coupe des vainqueurs de Coupe. Il avait battu l'Espérance de Tunis en 1987.
Mr. George veut être sénateur au Libéria.
Oui, l'ancienne star internationale de football du Libéria, George Weah, a renoncé à son titre d'ambassadeur de la paix pour se présenter aux élections sénatoriales dans la province de la capitale Monrovia. C'est ce que nous apprend un communiqué de la présidence libérienne.
Toujours en football, la Russie n'a pas les moyens de payer son sélectionneur.
Oui, la Fédération russe de football a révélé hier ne plus être en mesure, depuis plusieurs mois, de payer le salaire estimé à environ 7 millions d'euros par an de l'Italien Fabio Capello. Voici ce que déclare un membre du comité exécutif de la Fédération russe, Sergei Stepachin. Lorsqu'ils ont signé le contrat, ils auraient dû penser aux sources de financement. Aujourd'hui, il faut trouver ces sources. Capello, considéré comme le sélectionneur le mieux payé au monde, avait récemment affirmé ne pas être payé selon son contrat depuis 5 mois. Et pour terminer, les résultats des matchs disputés hier soir en NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Oui, 9 rencontres au programme cette nuit. Washington a vaincu Détroit 107 à 103, Utah battu par Atlanta 197, Indiana a dominé le Heat de Miami 81-75, Oklahoma City 109, Boston 94, Orlando 97, New York 95, LA Lakers 102, la Nouvelle-Orléans 109, Portland 130, Denver 113, Brooklyn 104, Phoenix 112 et le dernier match achevé aux petites heures du matin, score final Houston 113, Minnesota 101. De la détente avant de clore le monde aujourd'hui, de la détente avec la musique de Roger Muntou, bien évidemment. Salut Roger.
C'est pas ma musique, c'est notre musique Jacques. Ben salut Jacques, la chanteuse Rokia Traoré est née à Bélidougou au Mali, hein, près de la frontière mauritanienne. Mais son enfance se déroule au fil des affectations hein, de son père, diplomate malien, entre les USA, l'Europe et les Moyen-Orient. Ben on l'écoute hein, ce matin dans Koronoko. Koronoko, komu mankani yulodele koronoko, koda koma wu, koronoko, komu mankonga nulutaka koronoko, koda komate, tete korodla, komu mankani yulodele koronoko. Komu sobie ni muso yete, amana fa komu soba koro ukabo, imana tamuso ninkolo unaba muso ninkolo kimu soba koro janyoro faye koronoko.
Petite info Roger, après des études achevées à Bruxelles, elle décide d'aller se ressourcer au Mali pour mettre en forme cette musique qu'elle sent confusément en elle.
C'est ça Jacques, une musique qui n'est ni pop, ni jazz, ni classique, hein, mais plutôt quelque chose de très contemporain, interprété par des instruments traditionnels. Elle se distingue par son style mêlant tradition malienne, je veux dire musique mandingue et modernisme occidental. Ces musiciens utilisent surtout les instruments traditionnels balafon, goni, carigan, guitare, djembe, yabara. Un talent, Jacques, on doit le reconnaître que toi et moi n'avons pas, n'est-ce pas?
Oui, bon, bref, pour le moment, hein, un jour ça viendra. On n'est pas jaloux, mais ça viendra.
Ça viendra, ça c'est sûr.
Voilà, Rokia Traoré, Koronoko. Merci Roger.
C'est moi qui vous remercie, Jacques. Nos dédicaces ce matin à tous nos amis de Douala au Cameroun hein, qui nous suivent sur Radio Balafon.
Roger Muntou qui revient ce soir à 20h TU dans RM Show.
willing.